We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Un livre, un film, toujours présenté par Olivier Horry
et Cathy Géry.
Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de Madame Bovary, de Flaubert, un classique de la littérature
classique
française,
de chez classique, ouais.
Et du film de Claude Chabrol, adapté de, alors fidèlement on va dire, mais on reviendra dessus, ouais. Par Claude Chabrol en 1990 ou 91, plus précisément. Voilà.
Le roman est de 1857.
Exactement, 1857. Alors peut-être que tu peux nous expliquer un peu, Olivier, Flaubert se situe entre le romantisme et le réalisme.
Oui, j'ai trouvé intéressant d'essayer de replacer avec mes modestes moyens culturels dans l'histoire littéraire française. Donc on en a fini avec les Lumières, Diderot... Voltaire, par exemple, c'est terminé, et on pénètre tout doucement dans le romantisme, avec d'ailleurs un contemporain de Voltaire, Rousseau, hein, Les Rêveries du promeneur solitaire, La Nouvelle Héloïse, enfin, etc. On a des prédécesseurs en Allemagne avec Goethe, par exemple, et Les Souffrances du jeune Werther. On rentre dans le romantisme et pardon. On passe d'une littérature assez théoricienne, Candide de Voltaire, c'est une critique de Leibniz, la religieuse de Rousseau, de Diderot, pardon, c'est un peu une critique de la religion, le Jacques le fataliste, pareil, voilà. Et avec le romantisme, on rentre plutôt dans l'expression lyrique des sentiments positifs, la passion amoureuse ou négatif, le désespoir, la nostalgie, etc. Et puis, on rentre aussi dans un goût pour partager de la nature sauvage, etc. Le Sturm und Drang allemand, etc. On voit les mêmes phénomènes apparaître en Angleterre. On en a déjà parlé dans cette émission avec Jane Austen, par exemple, ou Emily Dickinson. Donc, effectivement, à chaque fois, un certain lyrisme. Et puis, d'un autre côté, effectivement, on est à la suite de Balzac, qui est mort en 1850, avec sa Comédie humaine. On est avec Zola, qui est tout jeune, qui a, je crois, 17 ans quand paraît Madame Bovary. On est dans une vague réaliste, naturaliste, qui vraisemblablement donne à la littérature vocation à décrire les choses comme elles sont, à tous les niveaux de la société. Et Flaubert, effectivement... en gros, deux inspirations dans son œuvre. Il y a une inspiration un peu historique, légendaire, mythologique, qu'on retrouve dans des romans comme Salammbô ou La Tentation de Saint-Antoine, ou même dans les Trois Contes, on a la légende de Saint-Julien l'Hospitalier ou Hérodiade, où il se lâche un peu. C'est aussi un courant qui existe à son époque, illustré par le décadentisme, comme Huysmans ou Jules Laforgue, etc. Donc l'exotisme, l'histoire, la légende, le mythe. Et puis, il a toute une autre partie de son œuvre qui est plus dédié effectivement à la description des réalités sociales, psychologiques, etc., des individus dans la société. Excusez-moi. Donc là, ça va être évidemment l'éducation sentimentale, roman d'initiation assez classique, ou dans les Trois Contes, à côté de Saint-Julien l'Hospitalier et Hérodiade, on va avoir Un cœur simple. Bon, ça paraît bien après Madame Bovary, on est en 1877, 20 ans plus tard. Mais voilà, on a donc deux courants. Et Madame Bovary appartient véritablement au courant un peu plus naturaliste, un peu plus réaliste de la littérature de l'époque. Mais, et c'est ça qui m'a fasciné, on est avec Madame Bovary en même temps qu'on a la description d'un petit patelin normand du milieu du 19e siècle, avec son médecin de campagne, etc. En même temps, on a la description de l'aventure d'une femme, Madame Bovary, justement, Emma Bovary, qui campe dans le roman de Flaubert un personnage plutôt romantique, justement.
C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il joue quand même avec ses codes de romantisme et de réalisme.
C'est ça.
À travers les personnages.
Exactement. Parce et ça, je crois que c'est très bien rendu par, ouais. Par Chabrol.
Ouais. Oui, tout à fait. Mais ce que je trouvais intéressant dans le personnage d'Emma Bovary, c'est que c'est une rêveuse, donc enfin une romantique. Et le personnage de Charles, son mari, lui, est beaucoup plus terre à terre. dans le réalisme. Et ce que je te disais, c'est que je trouvais que dans leur façon de... Bon, quand on va peut-être pas parler de la fin, si quelqu'un n'a pas lu Madame Bovary, mais enfin, ça se finit pas très très bien. je trouvais que...
Il y a encore des gens qui n'ont pas lu Madame Bovary.
je sais pas,
vais faire signer une pétition, je crois. Là.
Non, mais en tout cas, dans la mort des personnages, allez, soyons fous, annonçons qu'ils meurent à la fin.
Il y en a un paquet qui meurt.
Ouais, mais je trouvais que justement, la mort d'Emma Bovary était beaucoup plus réaliste et que celle de Charles était beaucoup plus romantique. Et que Flaubert joue avec ça formidablement, en fait.
Oui, peut-être. Je ne sais pas. En même temps,
quand on lit le texte de la description, puisqu'elle s'empoisonne, en fait, hein, c'est ça.
À l'arsenic, oui.
Il explique qu'elle a la langue qui pend, que les yeux sont exorbités. Enfin, c'est très réel. Enfin, on la voit.
Je peux vous lire le passage.
Et alors que lui, il meurt doucement sous la tonnelle, avec les petites fleurs autour. Enfin, il y a un côté qui est très. Cette opposition, elle est.
En fait, il tombe un peu comme une mouche, ce qui n'est pas très romantique, à mon avis. Alors que elle se suicide un petit peu comme le jeune Werther dans Goethe, et c'est beaucoup plus lyrique et romantique de finir comme ça dans une espèce de débâcle magistrale.
C'est plus dans l'inscription, en fait. Enfin, je trouve dans la description, dans la façon qu'a Flaubert à décrire.
Ah bah c'est anatomique.
Ces deux morts.
Tout à fait. Emma Bovary, avant de mourir, demande un miroir pour s'y contempler. Elle a la vision d'un mendiant qu'elle a aperçu à deux reprises quand elle allait à Rouen, etc. On est quand même dans, à mon sens, un certain lyrisme romantique.
Sauf
le respect que je te dois.
Mais bon, je peux quand même continuer à penser un petit peu ça me fait plaisir.
Tout à fait. Mais en plus, ce n'est pas faux.
Non, pas complètement. Alors, pour parler un peu de l'œuvre encore ou de Flaubert, est-ce que tu m'avais dit que c'était la même année que Les Fleurs du Mal? Tu voulais pas faire un petit parallèle avec...
Ah oui, il y a quelque chose d'assez stupéfiant. Et bon, j'ai un petit peu lu les livres de cette époque et des autres, mais j'ai retrouvé qu'effectivement Les Fleurs du Mal et Madame Bovary étaient parus les deux en 1857, donc on l'a dit, et que les deux ont été traînés devant les tribunaux pour immoralité. En gros pour immoralité, mais c'est finalement très 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 vague, et c'est assez intéressant d'essayer de comprendre ce qui était en jeu dans cette procuration du tribunal, procuration d'ailleurs qui a été menée par un monsieur qui s'appelait Ernest Pinard, ça ne s'invente pas.
Oui, c'est le même qui a fait.
Même qui a fait les deux.
Voilà,
il a fait les deux. Alors Flaubert, il s'est un peu boité parce que finalement, il a été acquitté. Personne n'a vu en quoi c'était tellement immoral. Il est vrai d'ailleurs que quand on regarde la littérature, mais même la littérature antique ou la littérature du 18e, je pense à Chaudalot de Laclos, par exemple, les liaisons dangereuses, l'immoralité de Madame Bovary, il faut quand même chercher. Il faut vraiment avoir une mauvaise mauvaises intentions. Donc Flaubert a été acquitté. Baudelaire, par contre, lui, il a un peu plus mangé. Il s'est pris une amende. Alors là, c'est intéressant et ça m'a donné une piste, moi, pour l'interprétation. C'est-à-dire, il s'est pris une grosse amende que l'impératrice elle-même, la compagne de Napoléon III, quand même, hein, c'est pas première venue, quand même. Elle est intervenue personnellement pour obtenir une baisse de l'amende imposée à Baudelaire, qui est tombée à 50 francs. Voilà, c'est pas, je sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui, mais enfin, c'est pas une fortune, hein, je pense pas qu'on s'achetait un cheval pour 50 francs. D'ailleurs, qu'aurait-il fait d'un cheval? Par contre, 6 pièces ont été censurées, dont les bijoux, Lesbos, enfin, etc. Et quand on... Enfin, moi, je me suis laissé aller à gratter un petit peu les raisons. Et je crois que d'en avoir... Quand on s'est immergé dans une préparation intensive de cette émission de haut rang, il m'était apparu que la raison principale, c'était que Monsieur Pinard avait quelques problèmes avec la puissance féminine. Vous savez, les femmes puissantes de la Salamé, enfin, je trouve l'expression passablement ridicule. Mais ceci dit, on l'avait vu avec Jane Austen déjà, avec Emily Dickinson, avec les sœurs Brontë, et là on le voit avec les tentatives de Madame Bovary et les personnages féminins des Fleurs du Mal de Baudelaire. On a des femmes qui tiennent. Et puis alors, fort pertinemment soumis le cas de George Sand et de ses rapports avec Musset, hein, qui a publié Elle et lui en 59, c'est-à-dire deux ans après. On a de nombreuses peintures de femmes puissantes, financièrement, socialement, artistiquement, psychologiquement, et surtout, et c'est ça qui semble déranger le petit complexe de castration de Monsieur Pinard, à savoir des femmes qui sont dominantes sexuellement, comme on le voit en particulier dans les relations de Madame Bovary avec Léon à Rouen, où elle s'envoie copieusement en l'air. Et
c'est problématique, c'est vrai.
Ah ben, non, c'est très gênant.
C'est très choquant.
Surtout dans un taxi, enfin un taxi de l'époque. Enfin, je trouve ça assez immoral. C'est avant-gardiste, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est... Oui, oui. Et il y a une phrase quand même très belle dans Flaubert qui est reprise par Chabrol, c'est qu'il parle de Léon et il dit « Il était devenu sa maîtresse ». Et ça, je veux dire, c'est assez
révélateur,
immoral.
Clairement. Bah. C'est peut-être le moment de l'instant musical, Olivier.
Un petit instant musical que je vous ai concocté avec une femme puissante, alors là, pour le coup.
I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with these Stangate traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your pointed smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too.
Ella Ella, Fitzgerald et Joe Pass dans Take Love Easy, un album de 74-73. J'ai les deux dates, j'ai pas réussi à me décider. Le titre c'est Lush Life, une vie luxuriante, celle que rêvait Emma Bovary, bien entendu.
Oui, elle aspirait à l'amour surtout, cette,
oui,
cette
Take
Emma.
Love Easy, oui.
Bah oui.
Bah oui. Alors, mais ça marche pas bien.
Non, bah elle tombe pas sur les bonnes personnes, visiblement, sur les bons amoureux.
Mais pour trouver, il ne faut pas chercher, c'est ça le problème.
D'accord, c'est ça la recette.
Ouais, non, mais je t'expliquerai. Enfin, bon, bref.
Alors, on va parler peut-être du film. Alors, avant le film, Chabrol découvre, lit apparemment Madame Bovary. Il a 13 ans, il découvre le livre de Flaubert, le roman de Flaubert autour de 13 ans, et il ne va réaliser le film qu'à 60 ans. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé...
Ben, tu vois, ça me fait un point commun avec Chabrol, parce que j'ai découvert Madame Bovary à peu près au même âge, et à 58 ans, j'ai toujours rien réalisé. Donc ça fait un point commun seulement.
Ouais, mais peut-être que, voilà, il te reste 2 ans, tu fais un film, hein, c'est bon. Alors, il a était très fidèle, en fait, hein, à Flaubert. Il a vraiment envie. On s'est fait la remarque ensemble, ouais, quand on a préparé. Mais, et il le dit, hein, clairement, qu'il n'a fait que s'inspirer du texte et de mettre en image ce que Flaubert décrivait, tout simplement. Alors, il y a une petite anecdote amusante que j'ai vue, c'est que... Dans la salle du bal, il y a le serveur qui vient présenter 2 coupes de champagne à Charles Bovary et qui dit Castellane. Et Charles Bovary dit Charles Bovary. Oui. Et en fait, c'est juste parce qu'il a dû placer le nom du champagne qui était sponsorisé, enfin, qui sponsorisait, ah oui, en fait le bal.
Ouais, ouais,
et
ouais,
le fait qu'il donnait du champagne, du vrai champagne.
C'est rigolo parce
et alors,
que.
Ouais, donc le serveur, enfin, ouais, le mec du plateau, je ne sais plus comment on appelle ça, là, un serveur. Ouais, hein, tout simplement, dit ça, quoi. Castellane, voilà, Castellane, et l'autre répond Bovary.
Bovary,
mais
ouais,
en fait, c'est juste parce qu'il lui dit le nom.
Qui montre un peu la lourdeur de Bovary par la même occasion. Mais quand tu parles de cette anecdote, je pensais que tu allais en citer une autre, parce que le type, dans le même bal, au début du même bal, quand on annonce les invités, à un moment donné, on entend annoncer Frédéric Moreau, qui est le héros de l'éducation sentimentale, qui paraîtra 10 ans plus tard. Donc il y a un petit clin d'œil là.
Il y a des clins d'œil comme ça. Mais sinon, en dehors de ce genre de petite anecdote, Chabrol reste extrêmement fidèle à l'écriture de Flaubert. Et pour présenter un peu Chabrol, il est originaire de la Creuse et dans les années 50, il va à Paris, il s'installe à Paris et là, il va être dans les dans les premiers, hein, on va parler de la Nouvelle Vague de François Truffaut, et il va faire partie, avec Romer aussi, de ces gens qui vont voilà, faire la Nouvelle Vague. Ensuite, on voulait aborder un peu le côté ce qu'aime un peu Chabrol au cinéma, enfin, quelles sont ses thématiques favorites. Et il y a un thème assez récurrent dans l'œuvre de Chabrol, c'est la bêtise.
Oui.
Et en fait, il dit être fasciné, enfin, il disait, parce qu'il est décédé maintenant il y a quelques années, mais il disait que la bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence. L'intelligence, elle, a ses limites, tandis que la bêtise n'en a pas.
Ah, c'est très joli,
voilà.
C'est magnifique.
Donc c'est vrai qu'on va retrouver
la
dans
la pensée d'autrui est plus inerte que la matière, avions-nous partagé également.
Exactement, c'était dit ça également. Et donc, pour interpréter cette... si on revient à Emma Bovary, bien sûr, il a presque 60 films, enfin, il y en a énormément. Peut-être un petit peu moins. Alors, on ne va pas tous les citer, mais en tout cas, les premiers, comme La Bête meurt, Que la Bête meurt, ou Le Boucher, par exemple, en 120.
Avec Jean-Yann aussi.
Ouais, et le personnage de Jean-Yann est parfait dans Madame Bovary.
Ouais.
Il est d'une justesse incroyable.
Et d'une bêtise incroyable.
Aussi. Et voilà, chercher la filmographie, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a L'Enfer qui m'a beaucoup marqué aussi, avec François Cluzet et Emmanuel Béart,
oui.
Sur la jalousie, sur les comportements qu'on peut avoir comme ça, extrêmes, ou même La Cérémonie, évidemment. Enfin bon, bref, il y a plein de choses à voir, à découvrir dans le cinéma de Chabrol.
Où il a beaucoup exploité Isabelle Huppert, d'ailleurs, justement.
Oui, alors, exactement.
Qui
pouvait interpréter Emma...
ça.
Voilà, Emma Bovary. Et c'est vrai que par deux fois, il a travaillé avec elle, avec Isabelle Huppert, en 1978 sur Violette Nozière, et en 1988 sur Une affaire de femme, un autre film que je vous conseille, sur Les faiseuses d'anges.
Moi, j'ai noté 6 participations.
Oui, mais il a, avant Madame Bovary, il a tourné deux fois avec Isabelle Huppert. Tu ne suis pas ce que je dis, en fait.
Ben, écoute, si, je fais des efforts, mais j'ai mes limites, moi aussi, je ne suis pas bête.
Non, il a fait, voilà, ces deux films avec elle, et évidemment que Emma Bovary ne pouvait être que Isabelle Huppert, et
ouais,
effectivement, après Emma Bovary, ils ont encore beaucoup tourné ensemble. Et c'est une Emma Bovary
parfaite
aussi. Enfin, c'est vrai que ce casting est assez incroyable.
J'étais frappé en particulier, comme elle a un petit peu sa folie des grandeurs, un peu névrotique, comme ça, hystérique. Et j'étais frappé de la beauté de ces toilettes tout au long du film.
Ouais, c'est vrai que dans le film, il y a énormément de belles toilettes.
Il y en a
aussi.
Pour du pognon. Hein.
C'était certainement une grosse production pour l'époque, en 90. Oui, ça c'est sûr. 91, oui, entre la production et la sortie du film, tu sais, il se passe un peu de temps.
Bien sûr, mais c'est comme pour mon album, là. Je ne sais pas si c'est 74, 73, tu vois.
Oui, c'est ça.
C'est un problème. Mon fils, je sais que c'est 92, par contre.
D'accord, ça c'est bien déjà.
Oui.
Donc, fidélité absolue à l'œuvre de Flaubert. Et on parlait quand même, c'est vrai que le film, quand on le voit maintenant, a peut-être... je ne pense pas qu'il ait mal vieilli en soi, mais il est plutôt d'une fraîcheur. Quand on revoit le film, il y a quand même cette fraîcheur-là. Tu ne trouves pas ?
Je trouve, oui, une fraîcheur sûrement, une belle manière de mettre en avant la détresse romantique, parce que c'est une rêveuse qui, en fait, fait des cauchemars. Hein. Donc ça, c'est certain. Bon, on peut peut-être regretter un peu certaines longueurs, mais enfin bon, c'est vrai que le livre est pas court non plus.
Bah, ce fameux bovarisme, alors, est-ce que c'est lié à l'ennui ?
Bah écoute, moi j'avais un professeur de français en 6e que j'ai retrouvé quand j'étais à Nancy faire mes prépas, qui écrivait sa thèse sur une phrase de Flaubert où il disait « Madame Bovary, c'est moi ». Et je pense que Flaubert s'est rêvé, à juste titre d'ailleurs, hein, grand écrivain à succès, mais que c'était un fondu d'écriture. C'est quelqu'un qui pouvait passer deux jours sur une phrase, par exemple.
Mmh.
Et il y a cette espèce de phénomène qui est très particulier à Flaubert d'une part, mais surtout à Madame Bovary, c'est une espèce d'obsession dans la qualité de l'écriture. C'est très bien décrit par Roland Barthes dans le degré zéro de l'écriture, au chapitre Flaubert et la phrase. C'est quasiment maniaque. Ce qui offre, malgré la fidélité incontestable hein, du film par rapport au roman, ce qui offre une espèce de contraste, parce que on a d'un côté pratiquement une perfection stylistique très inspirée de la linguistique du côté de Flaubert évidemment, alors que du côté de Chabrol on a parfois une photographie un peu brouillonne, un peu je sais pas ce que tu en penses.
Oui, on disait que ça pouvait ressembler au cinéma de Bertrand Tavernier d'ailleurs sur ouais. Sur son ouais des
sur
films des
thèmes.
Années ouais, aussi ouais.
Mais pas sur la photographie.
Bah ça dépend.
Ouais, écoute, plus Torchon quand même c'est plus propre que.
Ouais, mais écoute, Torchon, on est déjà, oui, ça fait... c'est... oui, tout à fait. Mais dans celui-là, peut-être qu'on a, on n'est plus sur la photo de
l'époque. De... Tu veux
ouais,
dire. Voilà.
Ouais, ouais.
D'accord. Ouais.
Et tu voulais pas nous faire une petite lecture d'un passage?
J'aurais bien aimé, mais j'ai pas les bonnes lunettes et puis il est l'heure de clore.
C'est vrai, déjà,
mais
pardon,
oui,
mais
voilà.
Je croyais que nous avions encore quelques minutes.
J'ai beau avoir de mauvaises lunettes, mais je vois bien les gros yeux de Sylvain.
Bah écoutez, alors bah, merci de nous avoir écouté sur Madame Bovary. J'espère que ça vous a donné envie de vous plonger dans l'œuvre de Flaubert et notamment dans celle-ci.
Oui.
Et qui reste moderne malgré tout, enfin énormément.
C'est éternel.
Éternel. Et puis, bien sûr, profitez-en pour récupérer, pourquoi pas, à la médiathèque.
Oui.
Intercommunal d'Aubenas, le DVD de Claude Chabrol. Voilà, c'est ça, le DVD de Claude Chabrol. Je ne sais plus ce que je dis. Merci.
Bah, si,
merci Sylvain. Et à bientôt.
À bientôt, au revoir. We get it almost every night when there